Bonjour, c'est le Mag sur Tropic FM. Eh bien aujourd'hui, c'est un honneur et un plaisir de recevoir au téléphone l'artiste de la semaine, le Wellingtonien Graham Allwright. Graham, bonjour.
Bonjour.
On dit Wellingtonien, c'est ça?
Wellington, exactement, oui, tout à fait.
Voilà. Alors, les Wellingtoniens sont les habitants de Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, où vous êtes né et où vous avez vécu avant de venir en Europe et en France en particulier. Alors, moi, oui. j'ai lu sur Internet que votre première tournée dans votre pays d'origine datait de 2005 et que vous étiez un inconnu du public. Alors, comment est-ce possible que les All Blacks soient plus connus que vous? C'est à cause de leur cri de guerre, le haka?
C'est-à-dire que j'étais connu d'un certain public. Parce qu'au fond, en Nouvelle-Zélande, ils écoutent surtout ce qui vient de l'Angleterre, des États-Unis, et pas tellement la France. Mais il y avait quand même, quand je suis allé chanter, il y avait quand même un public qui avait bien aimé ce que je faisais, et voilà, j'ai pu faire une tournée, et puis ensuite je suis retourné bref avec des musiciens néo-zélandais qui m'accompagnaient, et puis ça a très bien marché.
Et vous chantiez en français ou en anglais?
Ah, les deux.
Les deux.
Mais là-bas, j'ai chanté beaucoup en anglais, évidemment.
D'accord. Alors, ouais. Le rugby est une véritable institution en Nouvelle-Zélande. Chez les Allwright aussi, le rugby avait sa place?
Bah, c'est le rugby. Quand j'étais au lycée, je jouais parce que tout l'hiver, après les cours, on était tous sur le terrain. Il y avait plusieurs terrains pour le rugby. Et puis, les maîtres étaient aussi les arbitres. Et puis, c'est comme ça que je me suis cassé le nez en jouant au rugby. Et là-bas, c'est vraiment une religion.
Alors, savez-vous que le premier match officiel de l'équipe de France de rugby a eu lieu à Paris en 1903 et contre les All Blacks?
Oui.
Voilà, donc, alors 45 ans plus tard, vous installez en France. Il n'y avait donc pas que le sport qui rapproche les êtres humains, il y a aussi l'amour. Ce coup de foudre pour notre pays est un hasard, celui d'une rencontre où vous aviez déjà des envies de venir habiter en France à l'époque?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout, hein?
Pas du tout. J'ai commencé quand j'étais... adolescent, j'ai commencé à jouer la comédie avec des sociétés là qui... Il n'y avait pas de théâtre professionnel, mais il y avait quand même un théâtre amateur, très très performant d'ailleurs. Et je commençais à avoir un certain succès en tant que comédien. Et puis, si on voulait faire une carrière dans le théâtre, on pouvait pas rester là-bas parce que, comme j'ai dit, il n'y avait pas de théâtre professionnel. Donc, il fallait partir soit aux États-Unis, soit en Angleterre. J'ai eu la chance d'être accepté dans une très grande école de théâtre à Londres. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré ma première femme, Catherine Dasté. Elle est d'une famille de théâtre. Son grand-père était un très grand homme de théâtre. Jacopo, son père, Jean Dasté, évidemment, aussi un très grand homme de théâtre en France. Et donc, j'ai rencontré Catherine à l'école. On est tombé amoureux, et c'est comme ça que je suis venu en France.
Alors, qu'est-ce qui vous a tout de suite plu et moins plu en France?
tout de suite plu, oui. Je ne sais pas, au début, j'étais tellement émerveillé. Il y avait la langue, je ne parlais pas le français, et puis c'était un peu difficile, mais j'ai découvert beaucoup de choses. Très, très, très positive. Enfin, c'est évidemment la culture française, et puis la beauté aussi du pays. C'est merveilles à la France.
Sans oublier la bonne bouffe et le bon vin, j'imagine aussi, non?
Ah, enfin, j'ai, oui, le bon vin.
J'imagine.
Ben, à un moment donné, j'ai après un certain nombre d'années à la Comédie de Saint-Étienne, avec Jean d'Asté, j'étais encore un peu insatisfait. Je suis retourné en Bourgogne, où Jacopo avait été parti après son grand succès à Paris et puis aux États-Unis. Il est parti avec des comédiens, donc il y avait parmi ces comédiens et comédiennes, il y avait ma future belle-mère et mon futur beau-père, Jean d'Asté. Alors, voilà, j'ai passé 3 années à Pernant-Vergenès, un petit village, c'est tout à côté de Beaune, avec des très grands vins. Et c'est là que j'ai évidemment apprécié le vin. Voilà.
Alors, vos premiers pas sur scène sont de comédien, vous l'avez dit, ou déjà en Nouvelle-Zélande, votre guitare vous accompagnait et vous chantiez?
En Nouvelle-Zélande?
Oui.
Après, oui, bien sûr.
Ah, déjà?
Oui, oui. Ah, bon, non. C'est la guitare, je l'ai achetée en France.
Ah, d'accord.
Je l'ai achetée en France et j'ai commencé à apprendre des chansons de Georges Brassens, de Roger Cosimon, plein d'autres aussi. Et puis beaucoup de folklore des États-Unis. C'est quand j'étais en Bourgogne et que je travaillais dans les vignobles que c'est à ce moment-là que je travaillais avec la guitare. Et après les dures journées de boulot dans les vignes.
Voilà. Alors, vos débuts en chanson se sont passés comment? Leonard Cohen et Bob Dylan et leur folk à la sauce protest song n'avaient pas encore commencé leur carrière. Quel était votre style à l'époque?
C'est-à-dire que quand j'ai, évidemment, Bob Dylan, je trouvais, quand je l'ai écouté, parce que j'avais déjà écouté pas mal de chanteurs du folk song américain, j'étais très impressionné par Bob Dylan. Et Cohen, c'est venu un peu plus tard. Quand j'ai entendu son premier disque, c'était comme si j'avais écrit des chansons. C'est très bizarre. Et quand il est venu chanter à l'Olympia, donc on s'est retrouvé le lendemain à son hôtel, et puis il m'a raconté beaucoup de choses, il m'a raconté sa vie, et puis on est resté par la suite très liés. Et quand j'ai commencé à adapter ses chansons, il a aimé beaucoup ce que je faisais. Il a même dit qu'il trouvait mieux quand je chantais ses chansons que lui, mais je trouve qu'il exagère un peu. Voilà.
On parlait de folk américain dans sa veine protest song. Alors, depuis toujours, vous êtes exprimé de cette façon. Protester en chanson, c'est à la fois compliqué et courageux, même encore aujourd'hui.
Je trouve ça très difficile parce que dans la situation actuelle du monde, j'avais commencé une chanson en disant le monde comme un bateau ivre dérive sur une mer en rage, poussé par les courants et les vents violents, il dérive vers l'inévitable naufrage. Alors ça, évidemment, c'est pas très gai, hein.
Non.
Mais quand je vois ce qui se passe dans le monde actuellement, je suis assez désespéré, mais j'ai une foi, heureusement. Je suis pas de religion, mais j'ai une foi, et si j'avais pas cette foi, c'est sur un plan spirituel. Si je n'avais pas cette foi, je crois que j'aurais beaucoup de mal à vivre à l'époque actuelle où tout est en train de s'écrouler.
Ouais. C'était facile pour vous d'adapter en français des chansons anglaises. Vous aviez forcément le mot qui allait bien dans notre langue et qui voulait dire quelque chose.
c'est un travail intéressant. J'ai passé des nuits entières d'ailleurs, enfin, surtout sur la chanson de Cohen, parce que je voulais pas le trahir. Et quelquefois, il fallait trouver une équipe, mais qui trahit pas ce qu'il veut dire, tu vois. Et alors j'ai trouvé ce travail assez passionnant. Et quand par exemple j'écoute certaines chansons d'aujourd'hui ou de chanteurs américains ou anglaises, etc., j'ai envie de continuer à adapter j'écris des chansons moi-même, mais enfin pas beaucoup, mais je trouve que c'est un travail très intéressant, surtout quand c'est un poète comme Cohen, là, c'est extraordinaire de réussir une adaptation. Mm-hmm. Et quand il faut pas qu'on sente que c'est une adaptation, que c'est comme si c'était la chanson
originale.
Ouais. Mmh,
mmh. Alors, vous êtes connu pour vos adaptations de chansons d'artistes étrangers et américains en particulier. Alors, moi, pour vos adaptations en anglais de chansons de Georges Brassens, on parle toujours des versions anglaises en français, mais rarement de l'inverse. Georges Brassens est aussi, à sa façon, un folk singer. En français, on dirait chansonnier.
Georges Brassens, j'étais contacté par la maison de disques Phonogram. Et puis ils ont voulu faire un disque avec des adaptations de chansons de Brassens en anglais, et c'est comme ça je suis entré en contact avec un Écossais qui avait fait fortune dans le whisky, je crois, et qui s'est installé sur à Paris. Et puis donc j'ai travaillé avec lui. C'est pas moi qui ai adapté, mais lui, il a fait un travail remarquable. Et on a fait un disque de chansons. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir pour l'enregistrement les musiciens qui jouaient avec Georges Brassens. Mm-hmm. Joël Favreau. Et puis Pierre-Nicolas à la contrebasse. Voilà.
D'accord. Alors, on parle souvent en France des chansons et des textes de Bob Dylan et de Leonard Cohen. Alors, vous qui avez beaucoup voyagé, savez-vous si à l'étranger, on évoque les chansons et les textes d'artistes comme Léo Ferré, Georges Brassens, Jacques Brel, Jean Ferrat ou François Béranger, par exemple?
C'est surtout... Dans mon voyage... J'étais assez loin de tout ça, hein, parce que je découvrais d'autres mondes et, mm-hmm. et d'autres cultures. Je pensais plus aux chanteurs quand je suis parti vivre à l'étranger, dans des pays comme le Mexique, où j'ai vécu pas mal de temps, aux États-Unis, et puis... en Asie, au Vietnam, enfin, en Inde, j'ai séjourné plusieurs fois en Inde, assez longtemps, mm-hmm. Dans des pays d'Afrique aussi, tout ça. Alors j'étais très loin, si tu veux, de ma carrière de chanteur. J'ai pas fait une carrière comme on fait d'habitude, parce que, quand on commence à avoir un certain succès, on enregistre un disque, on fait une tournée, et puis un an, deux ans plus tard, on remet ça. Et puis, mais moi, je suis, quand ça marchait très fort, je suis parti. Et heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, j'aurais pu avoir la grosse tête. Hein.
Alors, on connaît votre engagement contre la guerre. Vous êtes membre du comité de parrainage de la coordination française pour la décennie de la culture de paix et de non-violence. Oui. En quoi consiste le travail de cette association?
C'est que c'est un organisme, c'est-à-dire que c'était un organisme, j'avais un grand ami qui dirigeait cette organisation humanitaire et qui travaillait dans beaucoup de pays pour l'humanitaire. Et en même temps, il est allé aux États-Unis, à New York, c'est là qu'il a fait adapter par les États-Unis, justement, cette une décennie pour la paix et dans le monde. Mmh. Voilà.
D'accord. Alors, on parlait de paix et de non-violence. Vous vous revendiquez chanteur, vous écrivez assez peu. Bon, j'ai lu, hein, préférant vous glisser dans les mots d'un autre. Lorsque vous ressentez que le message est commun, qu'il est inutile de chercher d'autres mots pour le faire passer. Alors, ce n'est pas le cas avec La Marseillaise, dont vous avez écrit avec Sylvie Dienne une version pacifiste. Vous l'avez même proposé en 2008 à Nicolas Sarkozy. Alors, quelqu'un de son cabinet a répondu que La Marseillaise était connue dans le monde comme symbole de la libération des peuples. Alors, comment une chanson aussi guerrière et sanguinaire peut-elle être un symbole de liberté?
Oui, alors là, quand on écoute ces paroles belliqueuses et sanguinaires, et qu'on oblige des enfants en primaire à apprendre ces paroles épouvantables, ouais. Moi j'ai trouvé ça vraiment invraisemblable. C'était complètement anachronique. Puis, à l'époque, à notre époque, on comprend très bien à l'époque, pendant la Révolution, et que dans le contexte où la France était attaquée de tout part, le compositeur Rougier de Lille, il a appelé ça un chant de guerre pour l'armée du Rhin. C'était pour galvaniser l'armée du Rhin. Ce chant maintenant, aujourd'hui, je trouve, quand je vois les sportifs chanter ça, j'ai assisté à un moment donné, il y avait des matchs France-Nouvelle-Zélande, et puis les Néo-Zélandais font la haka, c'est la danse de guerre, qui dansait avant d'aller se battre contre d'autres tribus. Et puis, alors ils ont fait le haka, et après, les Français sont avancés vers eux, et nés dans les yeux comme ça, et ils ont balancé la Marseillaise, et les Anglais sont complètement déstabilisés. Il y a la danse de guerre et puis un chant de guerre. C'était terrible. Mais non, je pense que maintenant, je sais que les enfants aiment beaucoup chanter ma version pacifique. Parce que la musique est bien, la musique, tout le monde connaît la musique. Mes concerts, je commence toujours avec ça. On distribue les textes. Et puis le public chante, évidemment c'est mon public, ils sont d'accord, mais ils chantent très 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 bien. Et bon, c'est quand même très réconfortant qu'il y a quand même beaucoup de Français qui ne sont pas d'accord avec cette Marseillaise traditionnelle et qui souhaiterait aussi. Il y a l'abbé Pierre qui voulait changer les paroles aussi de la Marseillaise. Puis bon, voilà.
Christine Boutin aussi, je crois.
Hein?
Christine Boutin aussi voulait changer.
Ah oui, d'accord. Là,
c'est un autre exemple, peut-être pas. Ah non.
Ouais.
L'abbé Pierre, c'est quand même mieux. Allez, vous êtes toujours sur scène parfois avec votre ami Steve Waring. Vous avez encore la même envie qu'à vos débuts, celle de retrouver votre public et de lui chanter des chansons. Il n'y a pas d'âge pour expliquer le monde.
Pardon?
Il n'y a pas d'âge pour expliquer le monde.
Non, il n'y a pas d'âge. Non, mais Steve Waring, enfin, on a fait beaucoup de concerts ensemble.
Ouais.
Et j'aime beaucoup Steve. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de concert, mais c'est un grand plaisir de travailler avec lui.
Et alors, instant, vous avez toujours la même envie qu'à vos débuts?
Pardon?
Vous avez toujours la même envie qu'à vos débuts, sur scène?
Oui, c'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que je trouve de plus en plus d'énergie. C'est peut-être que je reçois l'énergie du public, mais bon, évidemment, je suis plus très jeune, mais j'ai plus d'énergie que j'avais il y a quelques années avant.
D'accord.
C'est curieux, enfin.
Oui.
Ben, il faut une certaine hygiène de vie. Je mange très peu. Et mais je reçois l'énergie du public aussi au concert. Et puis, quand je vois que je peux apporter du plaisir au public, alors ça, c'est ça qui me motive vraiment, parce que c'est formidable de pouvoir apporter du bonheur aux gens.
Eh bien, merci, Graham Wright, d'avoir accepté l'invitation de Tropic FM.
Merci à vous.
Alors, si on veut se procurer un de vos disques, on peut les retrouver chez tous les marchands de disques ou autrement les commander sur Internet.
Hein? Oui, moi, j'ai pas l'Internet. Je ne sais pas comment faire sur l'Internet. Je ne sais pas trop bien parce que je pense que, évidemment, cet outil, l'ordinateur et l'Internet, c'est quand même extraordinaire.
Oui.
Et c'est un outil extraordinaire si c'est bien utilisé.
Oui.
Mais je ne veux pas passer des heures et des heures devant un petit écran parce qu'au fond de moi, je sais que dans l'évolution de l'humanité, à un moment donné, il n'aura plus besoin de ça. Il va découvrir des possibilités qui, pour l'instant, il ignore. Et je le crois vraiment. Et que il faut pas qu'on devienne complètement dépendant de toutes ces choses qu'on a inventées, mais ça fait partie de l'évolution.
Ouais.
Et c'est en train de changer les mentalités, les cerveaux des jeunes. Enfin, il y a une mutation qui est en cours. Et voilà.
Ouais. ça reste un formidable outil, quand même.
Hein?
Ça reste un formidable outil, mais qu'un outil.
Extraordinaire comme outil, oui, c'est ça.
Mais qu'un
outil. C'est comme un apprentissage pour la suite, parce que ce n'est pas la finalité, ça.
Ouais.
Sinon, on serait dépendant complètement de ces appareils. Et puis les matières premières actuellement sont pas inépuisables dans le monde pour fabriquer tout ça. Les terres rares aussi qu'on utilise dans les portables, et toutes ces matières premières qui sont utilisées dans tout ce que l'homme fait, les voitures, etc., toute la technologie. Mais ils ne sont pas inépuisables. Et en même temps, on est en train de, avec nos déchets, on ne sait plus quoi faire. On a tellement de déchets maintenant, on croule sur les déchets. Ça ne va pas bien.
Oui, ça ne va pas bien. Bon, le plus important pour nous quand même, vous serez en concert... Salle Edouard Herriot à Lyon le jeudi 23 mai 2013, un spectacle organisé par nos amis d'Atout Bout de Champ, voilà.
D'accord.
Ouais. Et vous ne serez pas tout seul.
Ah non. Alors, j'ai les deux musiciens extraordinaires qui jouent avec moi, malgache.
Ouais, depuis longtemps en plus, oui.
Alors, le guitariste, Eric Manana, ils sont tous les deux de Madagascar. Le guitariste, dans son pays, il est une très grande vedette. Et puis il est passé même à l'Olympiade, la fin de l'année dernière et le début de cette année aussi, avec son groupe. Et puis le contrebassiste, malgache aussi, il a fait le... Il est à Rennes, mais il a fait le conservatoire à Rennes. Et il a un groupe où il chante en breton. Mais alors, c'est, quand ces deux musiciens, quand je les vois, être souriants et qui m'apportent, c'est extraordinaire. J'ai une chance inouïe.
Bien. Eh bien, Graham, bonne continuation.
Merci. Merci bien.
Bon concert et puis à bientôt sur Tropic FM alors.
D'accord. Merci.
Au revoir.
Au revoir.